France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Laetitia Bianchi. On laisse souvent les récits d'aventure à la non-fiction, mais il y a toujours un moment où la littérature doit céder en audace pour préserver la perception du vrai. Dans Bonan Pack, vous racontez, Laetitia, les choses comme elles ont eu lieu, les mensonges aussi, mais en rappelant que c'est vous qui racontez.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un site archéologique maya aujourd'hui dans votre book club et la quantité d'histoires qui tournent autour, véritable maladie littéraire. Dans son nouveau livre, l'autrice franco-mexicaine Laetitia Bianchi se demande comment atteindre le réel de ce site aux peintures extraordinaires. Existe-t-il seulement, recouvert qu'il est par le langage des touristes, des explorateurs, des colons, des exploitants de toutes sortes ? Fièvre exotique de savoir contre mensonges historiques, propagande et communication, s'il y a eu auto-da-fé des mémoires écrites, il faut sortir d'autres mots du feu pour raconter autrement. Laetitia Bianchi est notre invitée pour son livre « Bonan Pack » paru aux éditions Verticales. Ensuite, et comme chaque semaine, on retrouve Mohamed Bougarsar en résidence dans le Book Club en ce moment. Il sort pour nous des livres de sa bibliothèque en écho avec l'actualité aujourd'hui. Il ouvre le mot « barbare » pour voir ce qu'il y a dedans, avec un peu de Claude Lévi-Strauss et un peu des textes de l'écrivain kényan Ngugi Wa Thiong'o. Et enfin, on cherchera de la musique dans les livres. C'est notre programme. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Laetitia Bianchi.
Bonjour.
Bonan Pack, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Verticales. Bienvenue dans le Book Club. Ce sera un livre qui sera au cœur de notre conversation dans un instant. Mais ici, tout commence toujours par un portrait de nos invités en tant que lectrice, en tant que lecteur. Il s'agit d'abord de faire connaissance avec vous par les livres que vous lisez. Ce livre-là, on le devine, celui que vous avez écrit, on le devine nourri de lecture, de bien d'autres choses aussi, de marche, d'invention, d'imagination, de rêverie, mais aussi nourri de lecture. Est-ce qu'on se trompe quand on imagine ça ?
Oui et non. C'est-à-dire que, en effet, alors il y a beaucoup de lectures qui ont trait au sujet lui-même, et je dirais plus des lectures d'histoire de l'art et d'archéologues, des journaux d'archéologues, peut-être que de la littérature à proprement parler. Et ensuite, c'est sans doute aussi le voyage qui est essentiel pour écrire un tel livre. C'est-à-dire ma présence, on va dire, au Mexique. Je n'imaginerais pas avoir écrit ce livre si je n'avais pas
de loin.
Vécu. Voilà, de loin, ça c'est sûr. Je pense qu'une bibliothèque n'est pas suffisante, on va dire, pour écrire ou essayer, tenter de décrire le réel. Voilà.
Et alors, quand vous entreprenez ce voyage ou d'autres voyages, Laetitia Bianchi, vous mettez des livres dans vos valises ?
Un petit peu, mais pas énormément,
tant que ça.
Très peu.
Et vous vous souvenez d'un livre que vous auriez emporté pour ce terrain-là ?
Pour ce terrain-là, alors oui, ça serait plutôt des récits d'explorateurs du XVIe siècle, l'histoire de la conquête du Mexique, que des textes mayas anciens dont on a quelques bribes de traduction, les journaux de Franz Blum. Après, je ne pars pas du tout avec une valise très très chargée, mais on va dire que c'est plutôt des choses très très précises et souvent, on va dire de première main. Ça, c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup dans mes lectures, mais sans faire exprès, hein, par goût. C'est-à-dire que je ne vais pas lire un livre sur tel ou tel lieu, tel ou tel thème, mais aller chercher les carnets, les notes de la personne, même si ce n'est pas édité de manière littéraire, on va dire.
Vous voulez lire qui a vraiment vu, quoi.
Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, par exemple, m'a beaucoup accompagnée, peut-être pour ce livre-là spécifiquement, Bonan Pack, les écrits de Désiré Charnay, qui était un grand explorateur du 19e siècle, plus très connu aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a vécu au Mexique, qui a aimé, alors qui est très, dans son approche, c'est très daté, mais en même temps, c'est très beau d'avoir vraiment au jour le jour ses perceptions de la forêt, du voyage, etc. Donc ce type de livre, oui, ça.
Et
ça
alors ça ressemble à quoi les écrits de Désiré Charnay? Il se trouve que c'est un des personnages qu'on retrouve dans votre livre à vous, Laetitia Bianchi. Mais ces textes-là, ça ressemble à quoi, cette perception du Mexique à cette époque-là?
Ben, c'est très 19e dans le côté la très extrêmement détaillé, extrêmement il y a une sorte de souffle de courage aussi, parce que c'est des gens, il faut imaginer, qui pendant des mois se retrouvent dans des régions qu'ils connaissent peu, avec ce savoir qui croise cette envie de savoir qui croise des tonnes de choses qui vont de la botanique à la construction aux méthodes de construction d'un architectural des pyramides, etc. Donc vraiment les savants au sens du 19e siècle qui s'intéressaient à des domaines extrêmement variés, extrêmement larges, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui.
Et alors, en dehors de vos projets d'écriture, quelle place tient la lecture dans votre vie?
Ah bah une grande place.
Ouais, c'est-à-dire vous lisez beaucoup quotidiennement?
Oui, je lis à la fois peu et beaucoup. Alors très peu de littérature contemporaine, on va dire, beaucoup d'histoires de l'art. Je lis en effet quotidiennement, je relis beaucoup, je suis quelqu'un qui relit beaucoup depuis l'enfance, qui relit peut-être
depuis
plus
l'enfance.
Qu'elle
ah
qu'elle
oui.
Ne lit.
Ah c'est marrant.
Oui, c'est-à-dire que je lis il va y avoir que ce soit de la poésie ou quelques textes d'auteurs, j'en sais rien moi. Nicolas Bouvier, par exemple, qui est alors peut-être une des lectures, même pour Bonampak, qui est quelque chose qui me plaît énormément dans la manière de raconter l'ailleurs avec des mots justes, ce qui n'est pas du tout si simple et sans sombrer dans l'exotisme. Mmh. Alors lui, ce n'est pas pareil parce qu'il il traverse des territoires où il n'habitait pas, mais il y a quand même ce questionnement-là qui pour moi est fondamental, de ne pas de ne pas se tromper, de pas être juste dans quelque chose de superficiel. Et oui, ça par exemple, c'est un des livres que je lis, que je relis, alors au hasard, hein, sans relire de la première à la dernière page. J'aime beaucoup
lectures. Vous les réouvrez?
Ouais. Ah oui, je les réouvre très régulièrement, fragmentaires. Je lis beaucoup aussi de littérature, de livres qui paraissent intimidants alors qu'ils ne devraient pas du tout l'être, je crois, qui viennent de la culture antique, grecque et latine. Par exemple, en ce moment, je lis Pline, l'histoire naturelle. Alors j'en ai besoin pour mon travail d'éditrice d'histoire de l'art. Mais c'est vraiment un plaisir qui est littéraire. C'est-à-dire que pour moi, lire l'histoire naturelle de Pline, pareil, pas les.
Vous voulez dire qu'on ne devrait pas être impressionné et on devrait y aller, quoi.
Ah, tout à fait. Et ouais. Un enfant de 10 ans ou un adolescent de 14 ans, c'est drôle, c'est plein de savoir sans jamais être pompeux. Je pense vraiment que c'est quelque chose de dommage, en fait, que certains textes classiques fassent peur, alors finalement, ils sont beaucoup plus accessible
que d'autres textes,
d'autres choses, un peu beaucoup plus prétentieuses, beaucoup plus confuses. Donc oui, moi, les auteurs antiques, oui, voilà, il y a toujours un ou deux bouquins qui traînent, mais c'est pas du tout systématique. Hein, je ne me suis jamais sentie.
Non, mais c'est un bon conseil à prendre. J'avoue que j'aurais jamais été comme ça vers Pline en me disant, bah oui, bien sûr.
Ah bah, alors par exemple, vous voyez juste là, dans mon sac actuellement, j'ai le tome 1. Qui consiste, c'est juste le sommaire de l'histoire naturelle de Pline, qui est une histoire, qui représente concrètement 23 volumes, donc c'est beaucoup. Et ce sommaire, qui est une sorte d'encyclopédie des savoirs de l'époque, fait le tour du monde et avec une poésie. Alors poésie, on peut dire involontaire, mais qui est quand même là. Enfin, qui sur les animaux terrestres, ceux qui ont des dents, ceux qui n'en ont pas, considération sur les dents de l'éléphant. Pourquoi merveille à ce propos. Et moi, lire ça,
oui, ça fait un
procure.
Inventaire presque.
Tout
oui,
à fait.
À la Pérec.
Exactement.
Enfin, voilà.
Plein de gens ont repris ça. Ouais. Pérec, Prévert, Borges, etc. Mais ça vient de là et ça existe et ça existe aussi dans les encyclopédies du Moyen Âge et ça. C'est quelque chose, moi, qui me ravit, qui ramène également à l'amplitude, en fait, à l'immensité de la, comment dire, du besoin de savoir, oui, ou de la recherche, de la quête de la connaissance, parce que c'est pas une connaissance établie. Vous voyez, il y a des gens qui vont se dire, ah oui, mais Pline, c'est daté, il dit n'importe quoi sur l'éléphant, par exemple, il s'est trompé.
Non, c'est le désir de savoir.
Exactement. Et moi, c'est ça qui m'impressionne et plus, enfin, qui m'impressionne, oui, qui me plaît, qui me transporte, enfin, qui fait que le livre me paraît tout à fait essentiel. Et alors, on dit à moi, mais ça a été le cas pour des siècles entiers. Je veux dire, si Aristote a été lu, relu, traduit, etc., ou Pline qui reprenait Aristote, ou d'autres gens après, avant, c'était dû à ça. Et ça ramène à, pas seulement à de l'humilité, en fait, ça donne aussi une, ça rappelle le sens de ce qu'est l'écriture, finalement, je crois, et l'art, même, de manière plus générale. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait, en faisant tout ça? Et donc, pour moi, plus un texte est lointain parfois dans le passé ou géographiquement, je crois que c'est vraiment quelque chose qui me définit en partie dans mon regard original en tant que lectrice, parce que je vois bien que tout le monde n'a pas le même. Plus c'est lointain, plus de moi, de ma vie, plus je vais être attirée par, je vais avoir envie d'ouvrir le livre. C'est-à-dire que si je vois un truc dans une librairie qui dit représentation de l'hippopotame sous la 18e dynastie,
vous dites ça, c'est vraiment,
je me dis,
pour moi.
Bah même pas, c'est pour moi. J'ai envie de l'ouvrir pour voir ce que ça raconte, pour m'intéresser à ça. Il n'y a aucune
peur, distance, ouais.
Aucune distance vis-à-vis de ce genre d'ouvrage. Et quand je repense à moi enfant, lectrice enfant, j'ai toujours eu ça, ce côté très direct de me dire, oh, ben ça a l'air bien, j'ouvre, pourquoi pas. Et en fin de compte, je crois que c'est une chance, mais qui est, comment dire, qui n'était pas décidée, vous voyez, c'est pas...
Vous la cultivez, vous la remarquez chez vous en tant que lectrice, et puis vous la cultivez.
Oui, et ça s'est fait, voilà, ça a continué, en fait, ça s'est poursuivi, quel que soit le sujet.
Vous évoquez à plusieurs reprises l'enfance, Laetitia Bianchi, est-ce que vous avez grandi dans un lieu où il y avait des livres autour de vous ?
Alors oui et non, et ça a été, et le non est une chance tout autant que le oui. C'est-à-dire que oui, il y avait un petit peu de livres, je pense notamment dans la maison de mes grands-parents paternels. Il y avait surtout d'ailleurs, enfin dans mon souvenir d'enfance, les dictionnaires de mon arrière-grand-père et de mon grand-père. Mais c'était pas, vous voyez, c'était pas des immenses, quoi.
Des usuels.
Mais il y en avait, non, c'était des très beaux, Larousse ou Robert, mais c'était, je veux dire, c'était pas une maison entière remplie de livres, comme on peut. Mais justement, ce peu, on va dire, a permis de, peut-être, de transmettre de manière invisible, sans que ce soit comme une obligation, sans que ce soit quelque chose de pesant, une sorte alors d'impression qui, d'abord, quand j'étais très très petite, passe vraiment par l'objet livre lui-même qui me plaisait, qui sentait bon, qui m'impressionnait, enfin voilà. Et tout au long de mon enfance, finalement, j'ai ressenti un petit peu ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment, je pense, eu la chance, voilà, qu'il y ait des livres, pas dans des petites proportions. Et puis, un goût, surtout, de la... En fait, c'est comme si c'était de manière éparse, par touche, la sensibilité artistique qui s'était transmise, et non pas le savoir dans ce que ça a de transmission sociale,
d'héritage
culturel. Et c'est beaucoup plus précieux. Donc ça, je remercie mes parents pour avoir transmis ça. Ça passait aussi par le goût pour la peinture, pour la musique. Si j'y repense, en fait, je pense que mon goût pour la lecture est lié finalement énormément à ma propre pratique de la musique que j'ai commencé très jeune, et où quand on joue une musique par rapport à un livre, on va dire, quand on apprend, si tout à coup on est transporté par l'instrument, en l'occurrence je faisais du piano, on ne peut pas tricher, en fait. Quand on a, j'avais 4 ans, 5 ans, et je me souviens du bonheur que procurait, voilà, juste la sensation d'être enveloppé de musique, d'essayer de rendre ça le plus joliment possible. Et à cet âge-là, on ne se dit pas, j'ai envie de faire ci, ou je le fais pour la galerie. Non. Soit c'est sincère, soit on ne le fait pas. Et si ça devient une obligation, ben, on dit, ah ben non, j'en ai marre, j'arrête le piano. Et moi, il y a eu cette sorte
d'élan,
de chance, d'élan. Et que j'ai transposé, en fait, dans ma façon de lire, il y a eu cette même chose. Et voilà.
Tout est joyeux dans tout ça.
Ah oui, très. Et oui, très. Et au contraire, ça a été une surprise, en fait, quand je suis arrivée pendant mes études face à des gens très cultivés.
Sur qui ça pesait un peu plus lourd.
Sur qui ça pesait et qui... Enfin, j'allais dire très cultivés, mais au mauvais sens du... Enfin, cultivés par une obligation, on va dire, de culture. Je me suis dit, ah ben, zut, en fait, les pauvres. Donc, vous voyez, c'est pour ça, je pense que c'est aussi une chance, des fois, de ne pas... Voilà, de ne pas avoir un rapport faux à l'art.
On va parler de votre livre à vous, juste après cette chanson de Me Too, un duo colombien de musique électronique composé de Julian Salazar et de Franklin Terredor. C'est une véritable techno de la forêt aux lueurs cosmiques, nous dit le site du lieu de concert lyonnais Le Sucre. C'est un lieu où ils ont joué. Ils s'y sont en compagnie de Loyal Lobos au chant. C'est une musicienne américaine d'origine colombienne elle aussi. Et la chanson s'appelle Cachito.
Cachito, cachito de la unión espera. Ahí es cuando se sueltan las peras. Brilla la noche, brilla tu cadena. Si te acercas no tengo problema. Cachito, cachito de diablo en espera. Quiero rezarte y comerte sin pena. Bendita palabra, bendita tu lengua. Quiero mirarte hasta que amanezca.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Si on devait se souvenir de tout, on n'en finirait pas, lit-on dans le livre au programme de votre Book Club aujourd'hui. Alors, il faut choisir de quoi l'on se souvient. Qui écrit quelle histoire? Qui écrit les pays? Qui écrit les sites remarquables? Ce sont des questions qu'empoigne votre dernier livre, Laetitia Bianchi. Vous qui dites, non sans humour, que vous n'avez pas quitté l'âge des pourquoi. L'objet de toutes ces interrogations est un remarquable site archéologique maya, au non moins remarquable peinture, que l'on trouve dans les guides touristiques et les récits des explorateurs. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces mots-là? En dessous de ces noms-là, comment atteindre le réel de ce site? Vous fabriquez un palimpseste de textes reliés à des époques et des êtres différents pour rendre la complexité de ce patrimoine que d'aucuns visitent. Innocemment, Bonampak, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Verticales. On en parle avec vous, Laetitia Bianchi, et avec ce premier extrait.
Il y a un oiseau. Mais il n'y a pas dans les lettres de notre alphabet de quoi écrire le cri de cet oiseau. Il pleut, mais il ne pleut pas de la pluie. Les gouttes sont larges comme la paume de nos mains, parfois plus, parfois les gouttes ont des doigts, parfois elles sont rondes et jaunes. Elles tombent de très haut. Elles tombent de plus haut que la hauteur du premier building des États-Unis. Elles tombent de 12 étages. Le 13e étage, c'est le ciel. Ce n'est pas de la pluie, non. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles les plus hautes qui tombent et qui, en tombant sur les branches des étages inférieurs de la forêt, font ce bruit de pluie épaisse. Les arbres sont plus hauts que les plus hauts des buildings qui n'existent pas encore. Sur les troncs des arbres, il y a des traces de doigts et ses doigts bougent lentement. C'est la lumière bercée par les feuilles. Les feuilles sont vitraux de cathédrales, mais les cathédrales n'existent pas encore. Les rayures de ciel ou de soleil peignent et repeignent les feuilles et les feuilles se laissent peigner et peindre de leurs doigts entrelacés. Une fourmi au cul doré, grand comme un pépin de sapotillier, avance, chantant l'ampleur du tableau. Le soleil n'est pas seul. Sous le soleil que nous appelons soleil, deux soleils volent en contrebas, au troisième étage du ciel, dans la pluie, qui n'est pas la pluie. L'un se pose sur une branche. Il a plongé sa bouche dans du rouge vif. Dans nos mots, il n'y a pas de quoi nommer ces couleurs. On appelle cela un toucan. Le Mexique ne s'appelle pas encore le Mexique. La forêt Lacandone ne s'appelle pas encore la forêt Lacandone. Bononpak ne s'appelle pas encore Bononpak. Et pourtant, tout cela existe. Et les soleils, et les couleurs, et les toucans. Nos pauvres lettres de l'alphabet n'en savent rien encore.
Laetitia Bianchi, les choses existent bien avant qu'elles ne soient nommées et la question de la possibilité de les nommer, mais aussi la violence qu'il y a parfois dans cet acte de nommer des sites, est un des fils importants de votre roman. Est-ce qu'on peut, c'est une sorte de géographie qu'on vient d'entendre dans cet extrait lu par Jeanne Aléos, est-ce qu'on peut en proposer une autre pour nos lectrices et lecteurs et dire quelle serait la géographie? De quoi on parle? Est-ce que j'ai raison de dire qu'au cœur de l'histoire, il y a ce site archéologique maya? Et si c'est le cas, quel est-il?
Oui, au cœur de l'histoire, il y a le site de Bononpak. Et donc là, c'est un des chapitres d'ouverture, voire l'ouverture. Et c'était pour resituer, alors, dans un fragment un peu poétique, mais qui dit bien qui dit une réalité qui est que c'est antérieur, en fait, que c'est l'existence de Bononpak est antérieure à la découverte de l'Amérique par l'Europe, que la hauteur des arbres, des temples est supérieure aux plus hauts buildings d'Amérique qui ont un lien avec cette découverte, en fait. Donc il y a comme des éléments, en fait, qui vont arriver plus tard dans l'histoire, dont là on rappelle cela existe, et ce n'est pas parce que on n'a pas de mots, nous, parce que quelqu'un n'a pas de mots, ou n'a pas écrit de livre, ou ne connaît pas l'existence de quelque chose, que ce quelque chose n'existe pas, et n'existe pas avec splendeur, ce qui est très important. Or, c'est parce que sinon, il peut y avoir un grand malentendu de dire « Ah, quelle chance, ça y est, ça apparaît à nos regards, donc ça existe, donc ça mérite en fait considération. » Mais non, la civilisation maya est en effet antérieure et aux cathédrales et aux buildings, et elle était bien là. Donc c'est, voilà, c'est
une... D'où la structure de ce texte qui parle vraiment d'un avant, d'un après. Il y a vraiment quelque chose qui est important, de rétablir cet avant-regard occidental, cet avant-regard explorateur, évidemment cet avant-regard touristique et cet avant-regard capitalistique. Oui. Il y a vraiment tout ce temps auquel vous essayez de rendre grâce, Laetitia Bianchi.
Oui, tout à fait. Alors il y a une formule qui arrive dans un passage du livre et que je donne avec humour, mais qui a existé, qui est de dire « Ah, Bononpak, c'est la Sixtine du monde maya. » Ça a été donné comme une sorte de résumé publicitaire de la beauté des fresques de Bononpak. Oui, parce que je rappelle pour les,
oui, enfin,
voilà,
faut
pour
le
les
dire,
auditeurs, des pyramides dans la zone maya, il y en a plusieurs, des pyramides, des temples, et Bononpak, en 1946, c'est une découverte qui est absolument exceptionnelle. Alors, on a un peu oublié parce que voilà, des décennies sont passées, mais qui a vraiment fait date dans l'histoire de l'archéologie, parce que sur ce site, au beau milieu de la forêt, il y a donc une grande pyramide. Cette pyramide, il y a un temple qui est adossé, trois pièces, toutes simples, et à l'intérieur de ces ces pièces, il y a des fresques qui étaient intégralement conservées. Des fresques, c'est-à-dire des peintures du sol au plafond. C'est très beau, très impressionnant. Et donc, comme la Sixtine, voilà. Mmh. Donc, ça a été une découverte majeure parce qu'aucune des fresques n'avait été conservée de cette époque, de cette civilisation-là. Et ça a eu des importances, enfin, en histoire de l'art capitale, parce que ça décrit la société, la guerre, plein d'éléments, on va dire, de la culture maya et dans des couleurs absolument somptueuses. Enfin, d'un point de vue graphique aussi, ça, c'est quelque chose de très, très beau. Mais donc, de dire la Sixtine du monde maya, alors que Bonampak, c'est 700 ans avant la Sixtine, ça montre, enfin, c'est une
phrase
qui
dit quelque chose, bien sûr.
Voilà, ouais. Qui, de manière quasi humoristique, moi, me permet toute seule, la phrase, elle montre à quel point est ridicule quasiment la manière de résumer les choses du point de vue occidental. Quoi,
oui,
de
parce dire, que ce que ça montre, en fait, Laetitia Bianchi, c'est notre incapacité ou l'incapacité d'un discours dominant à penser autre chose qu'un européano-centré discours.
Oui.
Du point de vue de la politique, du point de vue de l'art, du point de vue du monde, du point de vue aussi presque des astres, puisque vous parlez là du soleil, des oiseaux, en disant, mais les gars, rappelons-nous qu'avant que nous posions le regard sur quelque chose, ces choses ne nous attendent pas, en
Exactement,
fait, tout autant
tout
qu'elles
fait.
Sont. Il y a vraiment quelque chose de tout cet ordre-là comme point de départ. Il y a un autre point de départ qui est votre propre découverte à vous, du site de Bonampak, dont vous racontez que c'est un début là aussi, et que pendant très longtemps, le lendemain de cette découverte a duré ce que vous appelez votre naïveté, qui est aussi un motif du livre, cette naïveté que vous vous prêtez à vous, que vous nous prêtez à nous, ensemble de lecteurs, qu'on prête aussi probablement à tort au peuple Lacandon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la découverte pour vous de ce site-là et qu'est-ce que ça a occasionné comme parcours ?
Alors moi, je ne pensais pas écrire un livre sur Bonampak. Je vivais donc au Mexique, qui est aussi mon pays. J'allais vers le Guatemala, donc à la frontière. J'étais sur les traces, alors là, de quelque chose de ancien aussi, qui était un des chevaux que Cortés amène pendant son expédition, pendant la conquête. Et cette histoire m'intéressait. Il y a une histoire sur un cheval qu'il laisse dans cette zone, etc. Et qui va être divisé. On va dire, par la population chez qui il laisse ce cheval. Et donc, au cours de ce voyage, j'ai visité Bonampak. Donc, le point de départ, j'ai fait une sorte de préface au livre, est tout à fait réel. J'ai été éblouie par les fresques. Et puis, je me suis dit, tiens, quel est le découvreur de cet endroit ? Alors, le prospectus donnait un nom, et puis ça m'avait vraiment beaucoup plu, donc je suis allée chercher des informations là-dessus, et il y avait un autre nom, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, je suis allée sur peut-être le Wikipédia, mais côté, vous voyez, en espagnol, quoi, des fois qu'on en traduit, le texte est un peu plus long qu'on en est dans le pays. Et là, il y avait encore un autre nom, donc là, je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux.
Vous êtes vraiment nombreux.
Voilà, et j'ai commencé vraiment à dérouler, mais vraiment au début c'était de la simple curiosité, puis de semaine en semaine, une sorte d'enquête où je cherchais quelque chose, et puis je me disais, tiens, le découvreur là, financé par l'UFC, donc l'United Fruit Company, donc une entreprise bananière multinationale. Alors là, ça m'étonnait, en fait, se poser la question du pourquoi en étant naïf. Je l'étais réellement, et je pense que tout visiteur dans un lieu l'est en fait naïf. Et
oui, parce que vous commencez vraiment presque par des questions d'enfant, Laetitia Bianchi.
Oui.
Mais alors, qui découvre ces pyramides ? Et pourquoi celui qui découvre les pyramides est là ? Et pourquoi est-il là ? Avec quel argent il a voyagé ?
Oui.
Etc. Et en fait, vous remontez la complexité de quelque chose qui n'est pas qu'un Eureka de 1946,
exactement.
Mais un tissu d'un monde qui mène à cette découverte.
Oui, et je pense que souvent, les questions les plus simples nous amènent vers les réponses les plus complexes. C'est-à-dire que vraiment, il faut se demander, et c'était le point de départ du livre, alors après, dont le but est littéraire, on va dire, mais là, c'était de se dire, il y a une carte postale qu'on nous fait voir, qui est, tiens, un explorateur au milieu de la forêt, découvre des fresques somptueuses. Et là, si on se pose la question bêtement, mais comment est-ce qu'il y est arrivé au milieu de la forêt ? La réponse, évidemment, ne va pas de soi, parce qu'encore faut-il qu'il y ait des sentiers dans la forêt lacandone. Or, ces sentiers, il faut bien que quelqu'un les trace. Qui ? Alors là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui fait partie d'une des strates du récit. C'est le commerce du chewing-gum qui a permis l'ouverture des sentiers pour les archéologues. Le chewing-gum étant fabriqué à partir de la sève d'un arbre qui pousse dans cette forêt-là. Et donc, c'était une substance naturelle qui était mâchée par les Mayas depuis des millénaires. Qui est importé pour des raisons historiques à la fin du 19e par un président mexicain. Alors là, c'est une histoire politique que je raconte pas, mais c'est passionnant de voir comment un détail, en fait, a des implications, mais gigantesques. Donc, le chewing-gum se retrouve aux États-Unis. Là, il y a un pharmacien qui a l'idée de rajouter
un petit peu de sucre, un petit goût.
Et là, ça marche. Ça fonctionne aussi parce que c'est la naissance de la publicité, ce qui est un des thèmes aussi du livre. Il y a vraiment un essor des moyens de communication, d'une publicité extrêmement efficace. Donc là, on est fin 19e, début 20e aussi, les campagnes de communication. Et en fait, le chewing-gum va être mis dans la ration des soldats américains pendant la Première Guerre mondiale, enfin états-uniens plutôt. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis entrent en guerre, il y a une hausse de la demande du chewing-gum énorme qui fait que la forêt est exploitée, que des sentiers sont tracés. Et c'est grâce à ces sentiers de la forêt Lacandone que les quelques archéologues qui sont dans le coin ou aventuriers se retrouvent là et vont faire la découverte. Mais c'est vrai que tout est lié, en fait.
En tout cas, ce qu'on entend dans votre voix, Laetitia Bianchi, c'est que on ne peut pas ou on ne peut plus, et encore moins quand on a envie d'écrire, se contenter de la phrase « Le site Maya a été découvert en 1946 ». Il y a vraiment quelque chose d'une complexité qui s'invite à la fois dans la littérature, et avec tout l'aspect poétique et humoristique qu'a la vôtre, et presque d'un point de vue éthique aussi, on
Exactement.
Pourrait dire qu'on ne peut plus se suffire de cette phrase-là.
On ne peut pas accepter le cliché en se disant « Oh, bah, ça me va, c'est une jolie histoire, je la prends et c'est bon ».
C'est vendu comme ça. Ça fait partie de toute la réflexion autour de la propagande et de la publicité. On va écouter Anthony, auditeur du Book Club. Il a lu votre livre, il l'a lu de près et il vous adresse des questions.
Bonjour le Book Club, bonjour Laetitia Bianchi, j'ai lu Bon Impact. Alors le livre, il est luxuriant, vous ne cultivez pas le côté « on s'y croirait », sur la jungle Lacandone, des calques superposés, calques avec le parcours sinueux d'un personnage. Contre l'empilement, votre écriture est percussive, souvent vacharde, ultra dansante, ça dépote. Comme c'est un récit dans la jungle, il y a des bestioles, toucan, soleil, chauve-souris, vampire, mule en excédent de bagages, j'ai adoré le bestiaire. Et que dire du jaguar ? Le mot apparaît 20, 30 fois, alors qu'on n'en croise pas un. En fait, comme le jaguar, je crois que vous n'êtes jamais tout à fait dans la forêt. Votre jungle véritable serait plutôt les cartes, les langues, leurs traductions, dans la forêt des mots, le chant d'un oiseau, ce qu'il faut pour dire, ce qui manque aussi. Alors, Laetitia Bianchi, forêt Lacandone ou forêt des mots, merci de me répondre.
Oh là là, mais quel art de la question et de la description. Merci beaucoup Anthony pour cette question. Laetitia Bianchi, forêt Lacandone, mais est-ce que la vraie forêt de ce livre ne serait pas la forêt des mots ?
Oh ben, bien sûr, dans la mesure où c'est la tentative, en tout cas, je ne sais pas si c'est réussi, mais la tentative est d'écrire un texte littéraire. Donc, la forêt Lacandone, on va dire l'aspect factuel du côté, l'aspect factuel très documenté me sert de matériaux, de base. Les personnages ont existé, d'explorateurs, les aspects économiques, politiques, publicitaires sont là, le lien avec Hollywood, etc. Mmh. Mais en effet, tout le travail de quelqu'un qui écrit, je crois, est de travailler vraiment aux phrases, à la structure du livre pour rendre ça sous forme de littérature. Et c'est un grand travail. Parce que si j'avais juste voulu dire Carlos Frey a peut-être... Peut-être, je dis bien peut-être, c'est-à-dire qu'en tant que texte littéraire, peu importe, on va dire, a peut-être été assassiné, Franz Blom est passé à côté de la découverte, une entreprise de bananière est liée à l'archéologie et c'est pas bien. Bon, bah, j'aurais fait un texte journalistique ou historique ou un essai. Et j'ai choisi de faire un texte littéraire. Donc oui, la forêt, c'est tout le travail. Et encore une fois, sur un sujet complexe, parce qu'il est exotique, on va dire que j'ai tenté de dépouiller le plus possible d'exotisme le sujet.
Mais il reste, et c'est ça qui est assez intéressant, il reste une luxuriance, je reprends les mots d'Anthony, qui presque pourrait rapprocher votre texte de la jungle lacandone, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en effet, qui est épais, dans lequel il faut se frayer son chemin, on a plein d'informations, plein de mots, et puis d'un seul coup, plein d'odeurs, plein de couleurs. On a quelque chose qui est un livre assez junglesque. Est-ce que ça vous va qu'on dit les choses comme ça?
Oui, parce qu'il y a un enchevêtrement d'histoires, de complexité, de petits faits vrais et parfois hasardeux qui se mêlent et qui mènent à cette découverte. Mais en revanche, dans le côté la jungle ténébreuse et le jaguar qui rugit, etc. Alors,
non, mais d'ailleurs, il le dit, vous n'en rencontrez
pas. C'est fait.
Vous avez baissé ce volume.
C'est-à-dire que, oui, enfin baissé, voire éteint, c'est-à-dire que le jaguar, lorsqu'il apparaît, et c'est quelque chose qui est véridique aussi, et qui est très drôle, enfin que moi je trouve très drôle, c'est dans un article de l'époque, au moment de la découverte, je crois que c'était Paris Match, ou peut-être Life, ou un grand magazine comme ça à succès, c'est-à-dire qu'un des découvreurs, qui est, on va dire, l'usurpateur, enfin le voleur de la découverte, tous les articles reprenaient, il rentre dans le temple, et en sort un jaguar. Et ça, ça paraît fou, mais c'est vraiment cette carte postale, en fait, qui fait vendre, parce que dans le jaguar, dans la jungle, il faut qu'il y ait un jaguar, etc. Et ça, je m'en moque, en fait. Et alors même que, évidemment, qu'il y a cet animal dans la jungle, mais je voulais ne surtout pas donner prise à ce genre d'image toute faite, etc. Donc, lorsqu'il y a les mules, par exemple, ça va être des détails très précis sur leur...
Notamment, elles travaillent. Quand il y a des mules, elles sont là pour travailler, et il y a quelque chose du concret aussi qui apparaît dans votre texte et auquel vous tenez. On va écouter un nouvel extrait de votre livre « Bonampak », parce qu'on parle de la langue avec la question d'Anthony. Peut-être pour y entendre un ton, vous parlez des choses que vous trouvez drôles, et en effet, à plusieurs reprises, on rit.
Les forêts s'épuisèrent. Oh bien sûr, elles restaient forêts et tropicales. Mais sans roi. Décapiter les rois. Démocratisation et démocratie oblige, le problème était tout simple. Trouver de nouveaux acajou un peu plus loin sur la carte. Quand il y a un problème, c'est souvent les bœufs qui le résolvent, ou les mules, et un homme pour les conduire à l'endroit du problème. Cet homme, on l'appelait le Montero. Il était payé pour marcher. Il travaillait pour des messieurs à chapeau, assis dans une hacienda, parmi ces bruits qui sont une fenêtre ouverte sur l'insouciance. Le bruit bleuté des azulejos qui tremblotent sous un filet d'eau, le hennissement des poulains qui claquettent, le soupir des papayes que l'on tranche. Ce moment où le cœur du fruit s'ouvre en deux, autour de la lame, et grince comme un tronc fendu. Les messieurs parlaient longtemps à l'ombre du bonheur. Affaire conclue. Le Montero partait de son village. Il avait aussi un chapeau, mais pas du même genre. À croire que tout est affaire de chapeau. Le travail du Montero, c'était de marcher. Il partait, suivi d'une mule chargée à ras-bord de vivres et armée d'un fusil. Le fusil, non pas pour se défendre contre les jaguars, mais pour la chasse. Une fois les vivres épuisés, il faudrait survivre. Au bout de quelques kilomètres, le Montero abandonnait les rares sentiers et ouvrait de nouveaux chemins. Il y restait dans la forêt 3 mois, parfois plus. Insectes, feulements, fièvre, et voilà que pour couronner le tout, parfois, il butait sur des pierres. Certaines étaient drôlement grandes. Parfois aussi, près des pierres, il y avait des vases, ou des sortes d'assiettes ébréchées, ou des pots. Le Montero buvait son pazzolé en observant une drôle de statuette, et voilà tout. Puis le Montero retournait compter les rois des arbres, il les marquait d'une croix. Il mémorisait les chemins. Il devrait donner leur nombre, leur taille, les difficultés d'accès. Arbre, 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 ici, ici, là. Certains arbres superbes, hélas, ne finiraient jamais en commode rouge, sans sombre, à coups de pied cambré. La reine soupirait. Quelle tristesse! mais c'est qu'ils étaient trop loin ou qu'il fallait contourner un de ces absurdes escaliers de pierre qui menaient au ciel, autant dire nulle part.
Un nouvel extrait de votre texte « Bon en Pâques », Laetitia Bianchi. On entend quelque chose de l'ironie, de l'humour, du trait d'esprit, de la éventuelle colère qui peut sourdre sous cet humour-là. Ce qui fait aussi la rapidité. J'avais pris en note quelque chose qui disait « les choses vont vite à travers les siècles », mais vous avez une manière comme ça d'accélérer la cadence. Comment est-ce que vous avez choisi ce ton-là? Est-ce qu'il s'est imposé? Est-ce que c'est votre manière de d'écrire? Parce que ce sont des choses, pour la plupart, qui sont souvent graves, voire extrêmement graves, qui sont racontées dans votre livre.
Oui, alors là, c'est sur le commerce de l'acajou, et en effet, il y a quelques passage, notamment historique, où j'emploie ce ton. Il y a notamment l'autodafé de Mani, qui est la destruction de tous les codex mayas sur une décision volontaire, voilà, par un évêque espagnol, qui est en effet une date extrêmement grave, mais là, de l'histoire, on va dire, au sens de la culture, mais qui nous concerne tous, parce qu'un pan entier, voilà,
soit effacé,
c'est quelque chose de terrible. Et en effet, dans ce cas, là, j'aime beaucoup le registre de l'ironie, que je trouve très efficace, et du petit détail en fait qui conduit à des faits historiques aussi grands. Aussi
Pourquoi est-ce que c'est efficace l'ironie dans ces cas-là, par exemple face à un autodafé, des codex mayas et de ce que vous appelez un brasier des mémoires écrites? Qu'est-ce qui vous semble efficace dans le fait de réussir dans la condamnation, quand même, Laetitia Bianchi, de ces horreurs de l'histoire, de réussir à avoir de l'humour?
Oh, ben là, c'est peut-être en tant que lectrice, même très jeune, lorsqu'on lit Candide de Voltaire, ou l'épisode du nègre du Suriname, ou quoi, ça a une efficacité, je trouve, bien plus grande que des tonnes de livres et de paragraphes qu'on pourrait lire sur « Oh là là, c'est terrible, le commerce », la phrase « C'est à ce prix qu'on mange du sucre en Europe », où elle est absolument magnifique et elle a un rôle politique, sociale, pendant les Lumières, elle va jouer un rôle. Et c'est une simple phrase. Et c'est tout le travail, en tout cas, pour certains écrivains qui ont pu avoir un engagement, que ce soit contre l'esclavage, etc., c'est un travail qui est merveilleux, de se dire qu'une phrase peut valoir l'équivalent de dizaines de bouquins,
de pamphlets,
etc. Donc, dans ce cadre-là, de Bon en Pâques, de mon écriture de Bon en Pâques, oui, l'autodafé de Mani est quelque chose qui est très 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 peu connu en France, ou de quelques spécialistes, et qui, moi, en tant que franco-mexicaine, me navre. Enfin, je me dis, comment on peut ne pas savoir ça? Que tous les codex où il y avait un savoir encyclopédique extrêmement impressionnant pour l'époque, astronomique, ils sont partis en flammes. Il en reste 4 dans le monde. Alors là, c'est pareil, c'est de l'ironie qui fait que je marque une phrase, en effet, qui revient plusieurs fois dans le livre, qui est « Oh ben, on peut pas se souvenir de tout ». Et
sinon,
c'est un peu là, voilà, sinon, si on devait se souvenir de tout, ce serait
pas
trop long, on s'en sortirait pas. Alors que oui, bien sûr qu'il faut transmettre cette destruction-là. Bien sûr qu'il faut, pareil, il y a une sorte de petite
et dire à quel point c'est une perte pour l'humanité.
Oui. Il y a une petite ironie aussi sur le nom des codex. Alors ça, c'est à la toute fin, mais ils s'appellent tous codex de Dresde, codex de Paris. Donc, vous voyez ce fait tout simple, en fait, de renommer les choses et de leur donner le nom du découvreur européen. Mais
ça
côté...
les tue, ça les invisibilise.
Alors pas forcément, parce que ça peut être des œuvres très connues, mais si nous, demain, la chapelle Sixtine, il y avait la conquête de l'Europe et qu'on l'a renommée chapelle, et là, d'un nom, chapelle Moctezuma, ben ça nous ferait bizarre. Et ce renversement-là, vraiment, il m'a fallu vivre au Mexique, dans mon pays, pour comprendre en fait la violence du fait de renommer les choses
avec
un nom qui n'a rien à voir.
Vous écrivez, vous ne pensez quand même pas à votre âge qu'un Indien Maya du Mexique s'appelle Pedro comme on s'appelle Bob. Bien sûr que non, il ne s'appelait pas Pedro, mais on l'appelait Pedro. Faut pas compliquer la vie parfois. La question de la nomination, je le disais, de la même manière que Bon en Pâques ne s'est pas toujours appelé Bon en Pâques, le nom qu'on donne aux êtres, le nom qu'on donne aux choses, le nom qu'on donne aux sites et qui leur colle à la peau, Laetitia Bianchi, c'est vraiment une violence que vous explorez tout au long du livre.
Oui, ça arrive par touche, comme ça, et on voit l'importance des mots, hein, là, avec le président des États-Unis qui renomme.
C'est
des choses toutes bêtes, mais les mots ont un sens, et renommer des choses qui peuvent être des trésors, on va dire, du savoir de l'humanité, les renommer en leur donnant le nom, voilà, Codex de Dresde, parce qu'il est à Dresde. Bon, eh bien, il faut y réfléchir. Alors, le livre ne traite pas de ça, on va dire. C'est juste un point, mais j'aime bien faire apparaître comme ça des petites questions. C'est comme des petits pincements, je sais pas comment dire, ou des petites touches, faire réfléchir à quelque chose qui est là. Hein. C'est pas grave. Moi aussi, le Codex de Dresde, on ne peut pas l'appeler autrement. C'est son nom. Mais disons ne pas être naïf là encore face à ça. voilà.
Justement, vous parlez de la soif de comprendre, de la soif de réflexion. C'est quelque chose que nous disait beaucoup Neige Sino il y a quelques semaines au micro de ce book club, que c'était une des choses qui la mettait en route dans son écriture. Elle parle aussi d'un horizon de complexité. On l'écoute.
C'est vrai que j'aime, je crois, puisque je me projette en tant que lectrice, et que ce désir de comprendre la vie, la réalité, pour moi, c'est un désir très joyeux. Qui pourtant, je suis pas naïve, c'est pas parce que j'ai une joie à pratiquer cette herméneutique, à me rendre compte que j'ai le droit d'essayer de comprendre ce qui m'arrive, et que vouloir donner un sens au niveau philosophique, au niveau linguistique, ça justifie le fait de continuer à vivre. Tout ça, ça se retrouve dans mon écriture, ça se retrouve dans le fait que je trouve joyeux, je trouve riche de donner un texte que ma lectrice, que mon lecteur va essayer de comprendre. Parce que moi, j'ai une joie, un bonheur, et j'aime être dans ce défi aussi d'essayer de comprendre quelque chose qui ne se donne pas tout fait. Donc je crois que c'est ça, je projette dans mon écriture ce que j'aime faire quand je lis. J'ai besoin, je crois, de me permettre et de permettre à l'autre de trouver des petits fils pour se frayer une brèche pour arriver à la complexité.
C'est Neige Sino qui était au micro du Book Club de France Culture au moment de la parution de La Realidad, son livre paru chez POL, qui pour une part se situe au Chiapas, au Mexique. L'idée de tendre vers de la complexité, est-ce que vous diriez que c'est aussi un chemin d'écriture pour vous, Laetitia Bianchi ?
Oui, alors tendre vers de la complexité, on a l'impression qu'on veut compliquer les choses. Or, c'est très différent parce qu'en effet, quelque chose de compliqué et quelque chose de complexe,
c'est pas pareil.
Ce n'est pas pareil. Donc, complexe, oui, tout à fait, parce que le monde est complexe, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord sur les mots qu'elle prononce, sur le fait que la complexité et la joie ne sont pas du tout antithétiques, et même si on parle de choses extrêmement graves. C'est très similaire peut-être dans l'approche, sachant que sur cette...
Parce que le monde pêche, et notamment pour les histoires dont vous vous emparez, les lieux dont vous vous emparez, Laetitia Bianchi, le monde pêche ou s'arrange de simplification. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire tout à l'heure qu'on ne pouvait plus éthiquement, politiquement, littérairement se suffire de Bonampak qui a été découvert en 1946. C'est bien qu'il faut réinjecter. Alors si c'est pas le mot complexité qu'il faut choisir, mais une profondeur de champ historique, y compris une profondeur de champ poétique, moi c'est aussi ça que j'entends dans la voix de Neige Sino, qui le fait pour un autre sujet, mais...
Oui, tout à fait. Il faut, on ne peut pas s'en tenir. Alors après, on n'est pas lorsque les gens, on va dire, disent, il se passe à tel endroit, Bonampak est découvert. On n'est pas dans le domaine de la littérature, on va dire. C'est une assertion. Tout le pari était de faire justement à partir d'un fait historique ou d'histoire de l'art, enfin voilà, une donnée, d'en faire un livre, d'en faire un texte littéraire. Mais c'est le travail des livres littéraires en général que à partir de choses qui pourraient sembler des faits, mais qui n'existent pas, de donner toute la profondeur, toute la richesse, toute une palette de sensations, de données qui font qu'on comprend mieux au final ce qui est dit et qui est tout simple. Et sachant qu'il y a plein de choses de traverser une même... une même donnée historique, il y aurait plein de façons de l'écrire. Et même la poésie y arrive avec des moyens, on va dire, extrêmement réduits, peut réussir à dire la même chose qu'un roman de centaines de pages. Donc, on va dire, de la même manière qu'une histoire sentimentale, on va dire, un auteur va tisser avec ses mots la richesse et la complexité qui est sous-tendue. Mm-hmm. Bah pour moi, c'était un travail similaire, oui, d'essayer de montrer les croisements de plusieurs ordres. C'est vraiment comme des strates, en fait, qui éclairent le fait de départ, qui est la découverte de cette pyramide au fin fond de la jungle.
Il se trouve qu'on a reçu, Laetitia Bianchi, votre livre au bureau au moment où se posait la question du nom du golfe du Mexique, des assertions de Donald Trump sur la modification de ce nom et la façon péremptoire qu'il avait de le vouloir ou de l'imposer. C'est assez vertigineux de lire votre livre en écho avec cette actualité-là. Qu'est-ce que ça vous a fait ? C'est pas rien non plus de publier un livre à ce moment-là.
Oh, c'est un petit hasard, mais c'est, bah oui, comme on disait, pour des œuvres d'art ou pour le choix même du nom de Bonampak, qui est un nom qui est inventé, en fait, a posteriori par les découvreurs, c'est la question du langage. Il y a encore plus grave, à mes yeux, que la question du golfe du Mexique, c'est le mot américain, par exemple. Alors, qui, là, ça commence à apparaître, et le livre sort en même temps aussi, cette idée, quand on a dit un pape américain a été élu. Et j'ai même vu, je crois, sur une chaîne d'information de grande écoute, pape américain, bien que péruvien. Alors là, c'est pareil, il faut imaginer pour tous les gens qui habitent en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ce que ça peut faire, la violence que contiennent ces mots. De américain, bien que péruvien, comme si l'Amérique, c'était les États-Unis. Ben non, c'est faux. Mais bon, là, on rentre dans un domaine qui est autre chose que littéraire, voilà, et qui...
Mais qui vient frotter, important. En tout cas,
oui,
votre
tout
texte.
Tout à fait, qui est fondamental.
Le book club continue.
France Culture, le book club... Marie Richeux.
Et il va être question de mots avec vous, Mohamed Bougarsar, bonjour.
Bonjour, Marie.
Vous êtes en résidence dans le Book Club et vous sortez des livres pour nous en écho avec des actualités que vous choisissez. Cette semaine, on ouvre avec vous une enquête au cœur d'un mot, Mohamed.
Oui, Marie, et ce mot est le mot « barbare ». Chaque fois que ce vocable surgit dans la conversation publique pour désigner une catégorie de la population, il faut dresser l'oreille. Il arrive qu'il soit convoqué comme on retourne un stigmate, comme on transforme une injure en arme miraculeuse. Mais parfois, il est dit sans aucune ironie ni connotation, et alors il faut conseiller à la personne qui l'emploie de lire ou relire « Race et histoire » de Claude Lévi-Strauss.
Et la personne en question, je suppose que vous pensez à quelqu'un.
Bien évidemment. Il y a deux jours, le PSG remportait sa première Ligue des Champions, ce qui donna naturellement lieu à des célébrations de masse à Paris et ailleurs. Célébrations au cœur desquelles, hélas, il y eut aussi des destructions de biens, des affrontements avec la police, des blessés et, paix à leur âme et pensée pour leur famille, deux morts. C'est alors que le ministre de l'Intérieur intervint avec sa douceur coutumière, choisissant de qualifier d'un seul tour les auteurs des dégradations, alors que tant d'autres mots étaient disponibles, de barbares. Il ne s'agit pas ici de défendre ou justifier la violence urbaine, mais d'interroger l'imaginaire tout aussi violent qui coule dans un tel mot quand il est agité en France par le pouvoir. Impossible d'ignorer l'histoire anthropologique de ce mot, ce qu'il charrie de mépris, d'expulsion de l'autre, quel autre, hors du champ de l'humanité. Impossible de ne pas entendre qu'il en transude une foi arrogante en la supériorité de son propre statut, de sa propre classe ou de sa propre culture ou de sa propre civilisation.
Autant de biais que trague Claude Lévi-Strauss dans une critique magistrale de l'ethnocentrisme.
Lévi-Strauss, en effet, dans ce bref texte « Race et histoire », met chacun de nous en garde contre la bête facilité de l'autoglorification ombilicale, qui ferait dire, comme un réflexe, devant une situation inattendue, « habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous ». Qui sont les barbares et pourquoi ont-ils cassé ? Réponses absurdes et tautologiques, les barbares sont les barbares et ils ont cassé car ils sont barbares. Générique et général, le mot décivilise, mais il insinue surtout sournoisement et en ce point précis, l'anthropologie bascule dans la politique, c'est en ce point précis que les barbares sont considérés comme une identité commune, à laquelle celle de Monsieur Retailleau, puisque c'est lui qui parle, est infiniment supérieure. Si le relativisme culturel permet d'affirmer la singularité et la beauté de chaque culture, Lévi-Strauss nous rappelle aussi qu'elle peut asseoir, en différenciant à l'extrême, la hiérarchie, donc l'infériorisation, C'est le paradoxe du relativisme culturel. Mais ce paradoxe peut se retourner contre celui qui le pose, car, écrit Lévi-Strauss, c'est dans la mesure même où on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l'on s'identifie le plus complètement avec celle qu'on essaie de nier, et arrive alors la phrase célèbre, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie.
Le premier fil de l'enquête au cœur de la barbarie que vous proposez aujourd'hui, il est dévidé. Est-ce que vous avez d'autres pistes, Mohamed ?
J'en ai une autre. Chaque fois que barbare apparaît dans le débat public, il faut tendre l'oreille, car à l'origine, c'est une question de son. Lévi-Strauss le rappelle, étymologiquement, barbare pourrait renvoyer au son inarticulé que, selon les Grecs de l'Antiquité, les populations non-grecques produisaient en guise de langage. Barbare est donc celui qui fait barbare à l'oreille du raffiné grec, celui dont la grammaire primitive, le vocabulaire onomatopéique, ne sont pas élevés aux hauteurs d'une langue structurée et ne sauraient prétendre à la noblesse suprême de l'écriture. Le 28 mai dernier, à 87 ans, l'écrivain intellectuel kényan Ngugi wa Thiong'o s'est éteint dans une relative indifférence en France, pays où il était peu lu, peu traduit. C'est un véritable géant des lettres africaines et mondiales, maintes fois nobelisable, qui vient de mourir. Et, je le dis solennellement, il serait proprement barbare de ne pas posséder dans sa bibliothèque, entre autres, Décoloniser l'esprit pour une Afrique libre, Pétale de sang, Les neuf parfaites, ou, pour ceux qui lisent l'anglais, Wizard of the Crow, peut-être son chef-d'œuvre, encore non traduit malheureusement, c'est dire. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la vie remarquable, révolutionnaire, romanesque et courageuse de Ngugi wa Thiong'o, ceux qui voudraient s'intéresser à son œuvre profuse, fabuleuse et poétique, je renvoie à un article signé Guillaume Sangal, spécialiste de son œuvre, sur le site de la revue En attendant Nado.
On va le suivre, c'est sûr, ce conseil. Moi, je vais filer en librairie, mais est-ce que vous pouvez nous dire, par-delà l'hommage, le rapport entre cet auteur et notre enquête sur ce mot de barbarie, Mohamed ?
Voici le lien. Pendant un demi-siècle, Ngugi wa Thiong'o n'a cessé de dénoncer l'idée fausse, coloniale et répandue, y compris chez des écrivains et lecteurs africains, idée selon laquelle on ne pourrait pas écrire de grandes œuvres de littérature dans les langues africaines. Lui-même, Ngugi wa Thiong'o, a écrit nombre de ses livres en Gikuyu, sa langue maternelle, pour battre en brèche la hiérarchisation coloniale des langues. Il a toujours milité pour qu'aucune langue africaine, mais on pourrait le dire de toute langue minoritaire ou minorisée, ne soit qualifiée de barbare, donc d'impropre à la culture, et quand toutes les langues qui existent, on puisse créer pour enrichir l'expérience de la bibliothèque humaine, non seulement en termes de récits et d'œuvres, mais en termes de langues. En somme, c'est un critique majeur de l'impérialisme linguistique, de la colonialité qui perdure par l'inégalité politique organisée entre les langues et les cultures qui s'en est allée, un grand écrivain, un professeur, un combattant. Et je crois que rien ne lui aurait plus fait plaisir que d'entendre ici un Africain le saluer dans une langue africaine. Alors je passe au Serer, ma langue maternelle, et je lui dis « Mam Ngugi, mehe simnang, mehe danang, mehe gidmang, to lenge ki bindona, mokke, he ingekin, damine indamta bonnach, mbugine imbugit na khamkham, to khetadahain, bob me adna dayna. »
Merci infiniment Mohamed Bougarsar. Lecture d'actualité à réécouter sur franceculture.fr. Comment on va faire quand vous ne serez plus là ? On termine vite par un extrait de votre texte, Laetitia Bianchi, Bonampak, parce qu'on cherche de la musique dans les livres et il y en a dans le vôtre. Donald visite le lac Titicaca en 1942. Le film s'appelle Saludos Amigos et Donald répand la bonne parole à dos de lama. Walt Disney travaille pour le gouvernement des États-Unis. En 1943, un grand navire blanc nommé Brasil déverse des fruits exotiques et une bombe, la brésilienne Carmen Miranda. Le film s'appelle The Gang's All Here. C'est une comédie musicale et c'est un chef-d'œuvre d'exotisme, R ou X ou G. Carmen Miranda apparaît, immense, immensément divine, immensément coiffée, et elle chante.
Hello, amigo. I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad, you can put them in a pie, any way you want to eat them, it's impossible to beat them. But bananas like the climate of the very, very tropical equator, so you should never put bananas
bananas in the refrigerator.
Merci beaucoup, merci. Laetitia Bianchi, d'avoir été avec nous pour parler de votre texte Bon Empac aux éditions Vertical. Au son aujourd'hui, c'était Élise Le, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. Book Club que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr et poursuivre la conversation sur le compte Instagram.